France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un tour du monde à la voile 100% féminin, c'est une première bouclée il y a une heure tout pile par Alexia Barrier et ses équipières au large de la Pointe Bretonne. Nous l'écoutons dans un instant. La Bretagne sous les eaux, trois départements en vigilance orange. Nous verrons comment on surveille ces crues.
C'est relativement simple, en cliquant sur la carte on voit une infobulle qui s'allume. Donc là par exemple je vais aller à Quimperlé, place des anciennes fonderies. On voit en tréplein la donnée observée et on voit les prévisions pour les prochaines 24 heures.
Reportage dans quelques minutes et nos prévisions complètes dans une demi-heure. À suivre encore, ces agences immobilières qui acceptent d'écarter des locataires en raison de leur origine ou de la couleur de leur peau. Témoignages et explications. La police anti-immigration de Donald Trump qui tue deux fois en quelques jours aux États-Unis. Nous verrons comment ces agents sont recrutés et formés. Nous verrons si la mesure d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans fonctionne en Australie. Le texte doit être voté cet après-midi en France. Et puis, faut-il fermer l'établissement catholique Notre-Dame de Bétarame ? Le secrétaire général de l'enseignement catholique en France sera notre invité. À partir de 13h30, nous parlons du drame de Grand Montana. 40 morts dans le bar Le Constellation. La nuit du Nouvel An, le gérant Jacques Moretti libéré sous caution. Où en est l'enquête ? 01 45 24 7000 pour vos questions à nos invités. 13h45, notre feuilleton à quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Nous sommes avec le champion de paraski, Jules Segers.
Moi, je suis né avec une hémiplégie du côté droit suite à un AVC in utero. Mon père est moniteur de ski, donc il m'a mis sur les skis à l'âge de 2-3 ans. J'ai adoré ça, en fait.
Ça se passe en Haute-Savoie. 13h50, c'est la France. Paul Salmon, 82 ans, fondateur de Catimini, sort de sa retraite pour sauver la marque de sa disparition. Récit de Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, nous écoutons les Beatles, Day Tripper, avec le guitariste Mathis Pasco. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un exploit ne doit pas en cacher un autre. Thomas Coville a bien battu hier le record du Tour du Monde à la voile et en équipage en 40 jours et 10 heures. Mais à midi pile tout à l'heure, un autre multicoque a franchi la ligne virtuelle du trophée Jules Verne au large d'Ouessant, celui d'Alexia Barrier et de ses 7 équipières. Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Bonjour.
Premier équipage 100% féminin à boucler ce Tour du Monde. Vous venez de joindre Alexia Barrier.
Qui a sauté de joie avec ses 7 autres coéquipières tout à l'heure sur leur multicoque, en mitouflée dans leur tenue jaune, le poing levé vers le ciel en pleine mer. Elles le savaient toutes à ce moment-là, cette arrivée après plus de 57 jours de mer est historique. Alexia Barrier a mené cet équipage, elle en a conscience.
Quand on voit des monstres comme Olivier de Carson qui ont fait 9 tentatives, il n'en a terminé que 5. Nous, c'est notre première tentative et on a terminé. Donc, c'est déjà énorme. On revient avec des containers d'apprentissage que j'espère pouvoir mettre à profit sur une prochaine aventure autour du monde en équipage.
Alors, ces 8 femmes ont de 23 à 52 ans. Elles sont de 7 nationalités différentes. Ces derniers jours, elles ont d'ailleurs bien cru ne jamais y arriver à ce record. Arrivée au large de Ouessant, une grande voile s'est coupée en deux.
Avec la tempête Ingrid et la météo qu'on a eue, toutes les avaries qui se sont enchaînées, on était un peu rudes. Donc, à un moment, je me dis, on ne va jamais passer cette ligne d'arrivée. Ce n'est pas possible. Et si c'est arrivé, c'est aujourd'hui. Et je pense que si on peut donner un élan à d'autres projets, à d'autres personnes, garçons ou filles, de se lancer, d'oser, quand ils ont l'impression de ne pas être taillés pour le job, encore plus beau qu'un record.
Nul doute qu'elles seront toutes attendues par quelques centaines de supporters, au moins à Brest, à partir de 18h tout à l'heure.
Voilà, soyez nombreux à Brest pour les accueillir en fin de journée. Merci Clara Lecoq-Réal pour ce récit. Venons-en maintenant à cette enquête testing menée par l'association SOS Racisme. Une agence immobilière sur deux accepte de répondre à la demande d'un propriétaire qui ne veut pas louer son logement à une personne noire ou arabe, par exemple. C'est une demande illégale, faut-il le rappeler. Pourtant, le constat n'est pas nouveau. Depuis 2020, les professionnels de l'immobilier en France doivent suivre une formation à la non-discrimination. Bonjour Timur Özturk.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous allez nous dire dans un instant à quoi servent véritablement ces formations. D'abord, écoutons le témoignage de Juliette. Alors, ça n'est pas son vrai prénom, c'est une trentenaire, elle est née au Cameroun. Elle cherche un appartement à Paris. Elle est entrée en contact avec une propriétaire. Mais quand Juliette envoie son dossier, les choses se gâtent.
Quelques temps après, elle m'appelle en me disant qu'elle avait quelques points qu'elle voulait clarifier sur mon dossier. J'avais l'impression qu'elle remettait en cause les fiches de paye de mon garant, comme si elle avait fait ses calculs, c'était pas bon. Mais moi, en tout cas, je lui ai répété que ces fiches de paye sont vraies, il n'y a aucune modification qui a été faite. Suite à cela, elle commence à me dire qu'elle a un peu de mal avec les Africains, car ça lui est déjà arrivé de louer son appartement à une femme d'origine ivoirienne qui a fait de la sous-location, et c'est la raison pour laquelle elle avait justement des craintes à louer son logement à des personnes d'origine africaine, et je lui ai bien sûr répondu que ce n'était pas mon intention. Sur le coup, ça m'a assez surprise, mais comme je sais que le racisme est quelque chose d'assez présent en France, je n'ai pas non plus été impacté. C'était vraiment la première fois que j'étais confronté à ce type de situation de racisme aussi apparent dans ma vie.
Témoignage de Juliette au téléphone d'Erwan Chassin. Sa voix a été modifiée. Réaction ce matin du président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Cette pratique est inadmissible et condamnable. Fin de citation. Alors, c'est formations, Timour Özturk, elles sont obligatoires, sont-elles vraiment suivies?
Oui, obligatoires et suivies, nous explique Vincent Riotte, directeur adjoint d'AgifPass, l'une des structures qui propose cette formation intitulée « Lutte contre la discrimination dans l'accès au logement ».
En présentiel ou à distance, cette formation, elle est obligatoire.
Et la formation aborde spécifiquement le cas testé par SOS Racisme.
Prévenir aussi ses clients face à des prescriptions discriminatoires, c'est vraiment dans le programme un sujet à part entière. On doit être capable de lui répondre et surtout de ne pas accepter.
Mais cette formation est-elle suffisante? La question se pose, sachant que le module de lutte contre la discrimination dure seulement 2 heures.
Oui, c'est suffisant. Le principe est très clair de non-discrimination. On ne peut pas ne pas comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Puisqu'à partir du moment où on pointe des exemples concrets, vous avez compris tout de suite ce qu'on veut dire.
Alors, que pense-t-il de ces chiffres? On les rappelle, 48% d'agences testées qui acceptent de discriminer des locataires à la demande du propriétaire.
C'est navrant, effectivement, parce que le chiffre est très haut. Vous avez la loi, vous avez ceux qui vous forment, on respecte les programmes. Maintenant, une fois que vous avez l'information, c'est à vous de la respecter ou pas. Mais c'est de votre responsabilité.
Et Vincent Riotte qui rappelle que les professionnels de l'immobilier sont avertis dans le cadre même de cette formation des risques légaux en cas de discrimination. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Précision signée Timour Özturk. C'est un nom définitivement associé aux violences physiques et sexuelles à l'école. Celui de Bétarame, du nom de cet établissement privé catholique du Béarn. Théâtre du calvaire de dizaines d'enfants depuis les années 50. Près de 250 plaintes déposées. Depuis 2009, l'établissement a changé de nom et s'appelle désormais le Beau Rameau. Mais pour beaucoup de victimes, il faut aller plus loin et fermer le site qui accueille encore 167 collégiens. Bonjour Guillaume Prévost.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique. Vous avez annoncé ce matin le lancement d'une mission après les révélations de ces derniers mois dans des établissements catholiques. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, Guillaume Prévost. D'abord, question simple, est-ce que vous allez fermer l'établissement du Beau Rameau, ex-Notre-Dame de Bétarame?
D'abord, il faut reprendre un peu le contexte dans lequel on agit. Nous avons une immense responsabilité. Alain Esquer disait une responsabilité historique. Je m'associe volontiers à cette expression.
Qui dirige le collectif des victimes de Bétarame.
Responsabilité historique vis-à-vis des victimes, d'abord, qui ont été blessées précisément là où on leur devait une promesse de dignité, de respect, d'intégrité pour grandir. Responsabilité vis-à-vis des familles qui nous font confiance et qui continuent à nous faire confiance. Et responsabilité vis-à-vis des personnels qui ont été bousculés, humiliés, blessés par ces révélations, alors même, et c'est un point important, qu'elles ne portent pas la responsabilité de ces crimes.
Une fois que vous avez posé cela, Guillaume Prévost, prenez-vous la décision de fermer dans les prochains mois l'établissement?
Il faut ici distinguer le site et l'établissement. L'actuel établissement du Beau Rameau n'est pas Bétarame. La chef d'établissement, Edwige Duvieux, qui parlait ce matin devant vos collègues, les enseignants que j'ai rencontrés, les familles qui nous font confiance, ne portent pas la responsabilité de ces crimes. Ce n'est pas à eux d'assumer la responsabilité de ces crimes. Donc ce n'est pas à eux, demain, de porter le prix de cette fermeture. La fermeture que nous souhaitons, c'est la fermeture du site. Et pour que ce site puisse fermer, il faut que nous donnions les conditions de transfert de l'établissement du Beau Rameau, qui n'est pas, je le rappelle, Bétarame, sur le site voisin, pour permettre à l'ensemble des personnels, des familles, des enfants, de se projeter sereinement dans un projet éducatif fidèle à l'intuition de l'Évangile, qui est « Tu as du prix à mes yeux, C'est ça notre route.
Ce que vous nous dites, Guillaume Prévost, c'est qu'à partir de septembre, plus aucun élève n'ira sur le site actuel.
Non, justement, et c'était l'objet de ma réaction vendredi. Aujourd'hui, les conditions de ce déménagement ne sont pas réunies, notamment parce que l'actuel établissement du Bas-Rameau, qui, je le redis, ne porte aucune responsabilité dans les crimes qui ont été commis avant 2010, n'a pas reçu les garanties de sécurité juridique pour investir les millions d'euros nécessaires au déménagement de ces élèves.
Donc vous souhaitez la fermeture du site, mais à quelle échéance ?
Nous souhaitons la fermeture du site. Nous nous sommes attachés à un travail de responsabilité, de discernement avec l'ensemble des parties prenantes pour apporter des réponses claires à la communauté éducative avant l'été.
D'accord.
Et ce matin, j'ai pris l'engagement...
Donc réponse avant l'été ?
Devant vos collègues, devant les familles, devant l'ensemble des personnels quand je suis allé les rencontrer en novembre sur le site, nous devons avant l'été apporter des réponses claires pour que l'établissement du Bas-Rameau puisse sereinement se projeter dans un projet éducatif ambitieux au service des enfants et qu'à côté, nous apportions clairement les réponses qu'attendent les victimes en termes de responsabilité. Et ça passera par une prise en charge claire et nette de l'ensemble des responsables des crimes qui ont été commis, pour l'ensemble des crimes, pour le passé, pour le présent et pour l'avenir, parce que la responsabilité, notamment civile aujourd'hui, elle n'est pas encore clarifiée.
Donc vous annoncerez le calendrier à ce moment-là, d'ici la fin de l'été, Guillaume Prévost. Vous
Exactement.
Annoncez aussi ce matin le lancement d'une mission qui va aller à la rencontre des victimes et qui sera aussi composée de victimes. Dans quel but ?
Le but, c'est d'assumer nos responsabilités. Notre responsabilité, c'est d'offrir et de garantir un cadre de confiance où l'autorité éducative est clairement définie au service de la relation. Et ça implique de répondre aux questions de responsabilité, qui, quand, quoi, comment, où le collectif est mobilisé pour l'amélioration continue de la qualité de la relation, notamment au travers du pilotage des établissements et de garanties de qualité apportées à l'ensemble des parties prenantes.
Elle va aller dans les établissements, cette mission ?
Oui, bien sûr, elle va aller rencontrer l'ensemble des parties prenantes. Nous ne pourrons pas répondre à la question éducative et à la grave crise que rencontre l'éducation dans notre pays sans mieux protéger, mieux sécuriser l'ensemble de personnels qui se vouent à cette relation dont l'enfant a besoin. Et puis, je voudrais terminer
très
là-dessus,
rapidement.
Où l'organisation permet à chaque personne de s'engager sereinement dans cette relation. Il y a aujourd'hui une forme d'hystérisation de la question éducative qui fait que chef d'établissement, enseignant, même parent, tout le monde est insécurisé dans son rapport avec l'enfant. Nous ne pourrons pas sereinement apporter les réponses dont nos enfants ont absolument besoin sans sécuriser et protéger les personnels qui se vouent à cette mission. C'est essentiel.
Merci Guillaume Prévost d'avoir été avec nous dans ce 13-14, secrétaire général de l'enseignement catholique qui nous annonce sa volonté de fermer le site de Bétarame et d'en annoncer le calendrier de cette fermeture d'ici cet été. Merci encore. Lui a été condamné définitivement, c'était il y a 10 jours, pour corruption de mineurs. L'animateur de CNews, Jean-Marc Morandini, a vu son pourvoi en cassation rejeté. Il est donc condamné pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à 3 adolescents. 2 ans de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende. Cette décision ne l'oblige pas à quitter l'antenne et son employeur, le groupe Canal+, a décidé de le maintenir à la tête de son émission. Bonjour Alexandra Hakoun.
Bonjour.
Cela crée des remous à l'intérieur de la chaîne, même si jusqu'ici, aucune figure de l'antenne n'appelle à son départ.
Non, en effet, que ce soit Sonia Mabrouk qui a été la première à faire part de son malaise mardi, lorsque le député socialiste Jérôme Guedj l'a interpellé sur la question.
Je ne vais pas me substituer à la justice, je voudrais simplement dire qu'il n'a pas été condamné pour ne plus exercer sa profession sur CNews, mais puisque vous m'interpellez, moi CNews c'est ma chaîne de cœur, et vous savez, je vais vous le dire avec le cœur, moi je suis une citoyenne, je suis une mère de famille, et je suis personnellement engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je pense ce matin, et comme vous, et avec vous, aux victimes, quelles qu'elles soient.
Ou que ce soit Pascal Praud qui a embrayé samedi sur X, écrivant que Sonia Mabrouk avait trouvé les mots justes, qu'il aurait pu prononcer quasiment les mêmes paroles, ou même Laurence Ferrari, dimanche, dans Le Parisien. Personne n'a osé réclamer le départ de l'antenne de Jean-Marc Morandini. On pense aux victimes, on est contre les violences sexuelles et sexistes, mais on ne dit pas de mal de son employeur, et on ne conteste pas directement sa décision. Mais ces prises de parole montrent bien en effet l'agitation en interne, notamment parce qu'en termes d'image, cette décision est catastrophique. En termes d'appartenance des collaborateurs aussi, a tenu à pointer le syndicat autonome de Canal+, plus libre. Dans un communiqué, il a appelé tous les salariés et les talents du groupe à faire entendre leur voix sur le sujet, rappelant qu'en 2016, la direction avait promis le renvoi de Jean-Marc Morandini sans indemnité en cas de condamnation définitive, une promesse qui depuis a clairement été enterrée.
Alexandra Hakoun, le procès de l'ex-sénateur Joël Guerriau débute dans quelques minutes devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé d'avoir drogué à l'ecstasy la députée Sandrine Josseau afin de la violer, affaire emblématique du fléau de la soumission chimique. Joël Guerriau explique l'avoir drogué par inadvertance et sans intention de l'agresser. Les jeunes et les réseaux sociaux, les députés devraient adopter cet après-midi la proposition de loi pour les interdire au moins de 15 ans. Reste à savoir si cette loi, qui pourrait entrer en vigueur en septembre, cette loi sera-t-elle conforme au droit européen. Car sur le continent, la France serait la première à le faire, la deuxième dans le monde après l'Australie, qui a interdit ses réseaux au moins de 16 ans il y a un mois et demi. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
La mesure est-elle réellement appliquée ?
Bien, disons qu'il y a deux façons de voir les choses en fonction de si on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors du côté de ça fonctionne, le chiffre le plus parlant est celui du nombre de comptes désactivés, restreints ou supprimés par les 10 plateformes concernées. Il est proche des 5 millions. Le groupe Meta annonce par exemple avoir supprimé 544 000 comptes d'utilisateurs de moins de 16 ans. Il faut savoir quand même que les amendes peuvent atteindre les 28 millions d'euros. Maintenant, on passe du côté de cela n'est pas gagné parce qu'il faut saluer la créativité des ados et les failles du système. Failles car de nombreux comptes ont été désactivés sur les téléphones, mais pas sur les ordinateurs. Failles car certains font appel à des adultes pour créer leurs faux comptes. Et puis failles encore car certains jeunes se mettent tout simplement des fausses moustaches pour tromper le logiciel de reconnaissance faciale.
C'est assez artisanal.
Et ça marche très bien. Bon. Verre à moitié plein et à moitié vide, avec d'un côté des jeunes qui se retrouvent subitement isolés aussi, de leurs amis, de leur communauté qui est parfois éloignée, avec de l'autre une prise de conscience chez certains qui donne raison au premier ministre australien dans son choix d'interdire et de légiférer sur le sujet.
Nathanaël Charbonnier.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est la police anti-immigration voulue par Donald Trump. ICE pour Immigration and Customs Enforcement, littéralement le service de l'immigration et des douanes. Ces agents viennent de tuer par balle deux citoyens américains ces derniers jours dans la même ville, celle de Minneapolis. Le dernier, c'était samedi, Alex Pretty, infirmier accusé par la police de l'ICE de s'être approché d'eux, un pistolet à la main, version contredite par plusieurs vidéos. Pretty était en fait en train de filmer ses agents. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
L'ICE, c'est 22 000 agents et ces deux morts coup sur coup interrogent sur leur formation. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Alors pour comprendre, en fait, on peut faire un tour sur la page d'accueil de l'agence. On y trouve l'oncle Sam avec un message en lettres capitales. L'Amérique est envahie par des criminels, des prédateurs, l'Amérique a besoin de vous pour les chasser. Une précision, aucun diplôme n'est requis. Pour augmenter ses effectifs, ICE a donc lancé il y a plusieurs mois une campagne de recrutement massive sur les réseaux sociaux, avec des publicités géolocalisées autour des bases militaires, des clubs de sport, des stands de tir ou des salons d'armes, des clips inspirés de jeux de type Call of Duty. Et il y a même une publicité qui présente les migrants comme des Pokémon à attraper. À la clé, il y a des primes qui vont jusqu'à 50 000 dollars, le remboursement de prêts étudiants. C'est une aubaine qui attire majoritairement des profils masculins, très patriotes, mais aussi des membres de la police locale qui sont attirés par de meilleurs salaires. La formation dure quelques semaines à peine, il n'y a quasiment aucun filtre pour le recrutement. Une journaliste de Slate, sans expérience et reconnaissant avoir consommé du cannabis, s'est ainsi vue proposer un recrutement expéditif, appuyé par un budget colossal, 37 milliards de dollars cette année. Les effectifs de ICE ont doublé en un an, avec donc, vous l'avez dit, 22 000 agents.
Éclairage signé Claude Guibal. La semaine dernière, c'est Emmanuel Macron qui tenait tête à Donald Trump sur le Groenland, discours à Davos en Suisse dans lequel le chef de l'État, lunettes de soleil devant les yeux, expliquait préférer, je cite, « le respect plutôt que les brutes ». Ce discours a été salué par de nombreux journaux à travers la planète, très commenté aussi sur les réseaux sociaux. Pas toujours pour les bonnes raisons. Bonjour Clémentine Sabrier.
Ah, bonjour.
Certains extraits, notamment son For Sure, sont l'objet de parodies partout dans le monde.
Oui, la majorité des vidéos reprennent ce court extrait. Emmanuel Macron, lunettes aviateur sur le nez.
Sometimes it's too slow. For sure. and needs to be reformed, for sure.
Et avec cette vidéo très courte des légendes humoristiques sur l'accent du président, par exemple, c'est l'oral d'anglais, tu n'as rien, mais tu donnes tout sur l'accent, for sure. C'est cette expression, deux mots qui signifient pour sûr ou avec certitude, qui fait le buzz. Elle est notamment reprise par l'imitateur Chad Bunny sur TikTok.
Est-ce que je suis le meilleur président du monde ? For sure.
Ou encore par un grossiste en bijoux.
Ça, c'est 1 euro pièce ? For sure. Il n'y a pas de quantité minimum ? For sure.
Certaines vidéos font des centaines de milliers de vues, quelques dizaines de milliers pour la plupart, comme cette parodie musicale du chanteur Bilal Hassani. Sometimes it's just love, for sure. It needs to be reformed. Et si vous préférez l'électro, il y a aussi plusieurs remixes produits par des DJ.
Un discours vu et revu donc, ça ne veut pas dire, Clémentine, que tout le monde en ait saisi le sens.
En effet, on peut s'interroger sur le fond que retiennent les internautes de cet extrait viral de 5 secondes. Sorti de son contexte, on ne comprend pas bien de quoi parle Emmanuel Macron, en l'occurrence de l'Union européenne trop lente qui doit être réformée selon lui. Après, sur la forme, le président transformé en mème, c'est un outil de soft power français. Selon approche d'Emmanuel Macron, c'est une façon de relayer différemment le message de puissance européenne du chef d'État. Et puis c'est une façon de changer l'image du président en France comme à l'étranger. Un Emmanuel Macron, nouvelle version, plus américaine, avec ses lunettes façon Top Gun, pour répondre à l'impérialisme des États-Unis de Donald Trump.
Merci Clémentine Sabrier. Les policiers et gendarmes français interviennent dans le Nord et le Pas-de-Calais pour empêcher les migrants de traverser la Manche, mais utilisent-ils les bonnes armes, des armes intermédiaires? La défenseure des droits, Claire Hédon, a été saisie à plusieurs reprises à ce sujet ces dernières années. Elle rend son rapport aujourd'hui. Elle dit que l'utilisation de plusieurs de ces armes pose problème. Bonjour Thomas Vinclair.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et les justifications des forces de l'ordre ne lui paraissent pas suffisantes.
Mais très souvent, la légitime défense est invoquée pour justifier ces tirs, mais c'est très difficile à établir pour la défenseure des droits. La faute au compte-rendu des policiers et gendarmes peu précis. Il est très souvent question d'une réponse à des jets de projectiles de migrants, mais sans plus de détails. Le ou les auteurs de violences ne sont eux jamais clairement identifiés. Peu de traces écrites, pas plus de preuves vidéo, car les caméras piétons ne sont presque jamais déclenchées. La défenseure des droits demande désormais leur activation systématique lors de chaque intervention, même de nuit. Pour les forces de police et de gendarmerie, l'utilisation de la force permet aussi d'éviter des drames en pleine mer. Pas pour Claire Hédon. Tirer des grenades lacrymogènes sur des migrants alors en mer, comme l'ont fait par exemple des CRS en février 2023 à Dunkerque, augmente, selon ses mots, les risques d'atteinte à l'intégrité physique. Enfin, et c'était un point dénoncé avec force par les associations de défense de migrants, les crevaisons des embarcations ne répondent à aucun cadre légal, selon la défenseure des droits.
Merci Thomas Vinclair. L'ouverture ce matin du procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. 4 personnes condamnées en première instance à des peines de 13 à 16 ans de réclusion criminelle. 4 personnes sont rejugées devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris. 2 amis du terroriste qui avait été condamné pour complicité d'assassinat et 2 autres pour association de malfaiteurs terroristes, également accusés d'avoir participé à la campagne de haine qui avait précédé l'assassinat de Samuel Paty. Et de nouveau de fortes pluies attendues ce soir sur la Bretagne. La semaine s'annonce très arrosée alors que les sols sont déjà gorgés d'eau. 3 départements, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Finistère, en vigilance orange. Et ce sont les prévisionnistes de Vigicru qui surveillent le niveau des cours d'eau. Ce sont eux qui actualisent les cartes. Et en cas de crise, comme c'est le cas cette semaine, leurs agents se relaient 24 heures sur 24. Jean-Michel Naga, vous les avez rencontrés à Rennes.
Et elle a des petits yeux ce matin, Mélanie. Il faut dire qu'elle a commencé sa journée en pleine nuit.
Depuis minuit. On se relaie toutes les 12 heures en ce moment.
Elle fait partie des 10 prévisionnistes qui assurent les permanences 24 heures sur 24 dans cette salle opérationnelle pour surveiller les cours d'eau.
Là, je suis sur une station en particulier, Montfort-sur-Meux. Là, actuellement, on est autour des 2,30 m, 31. Ça grimpe encore un petit peu, mais doucement. On devrait avoir un pic en début d'après-midi.
Les données sont précises. Grâce aux stations de capteurs électroniques, il y en a 170 installées dans les cours d'eau de la région. Et toutes ces informations sont à disposition sur le site de Vigicru, 2 fois par jour et même 4 fois par jour quand la situation est tendue. Thomas Belin est le chef de cette unité prévision des crues.
C'est relativement simple. En cliquant sur la carte, on voit une infobulle qui s'allume. Donc là, par exemple, je vais aller à Quimperlé, place des anciennes fonderies. On voit en tréplein la donnée observée et on voit les prévisions pour les prochaines 24 heures.
Et la progression des crues ne dépend pas seulement de la météo, elle est différente selon les cours d'eau, précise Anne Morantin. Elle est responsable de Vigicru en Bretagne.
Sur la Vilaine, on est dans des temps de propagation qui vont durer plusieurs jours.
C'est ce qui s'était d'ailleurs passé l'an dernier, on s'en souvient, les inondations avaient touché Rennes 3 jours avant Redon.
Reportage ici Armorique. La grève reconduite ce matin au musée du Louvre à Paris. 4e jour de fermeture du musée depuis le début du mouvement en décembre dernier. Les salariés et syndicats demandent toujours de meilleures conditions de travail. Il était déjà l'actionnaire principal de Fnac Darty, 30 000 employés dans le monde, 1 500 magasins. Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský veut maintenant en devenir le propriétaire majoritaire. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Il va lancer une offre publique d'achat. Pour quelle raison ?
Eh bien tout simplement pour éviter que la Fnac ne passe sous pavillon chinois, menace devenue un peu plus concrète ces derniers mois puisque le géant chinois JD.com a engagé, voilà, plusieurs semaines maintenant, le rachat du distributeur allemand Ceconomy qui détient aujourd'hui 20% des parts de Fnac Darty. Indirectement donc, la plateforme chinoise qui se veut concurrente d'Amazon deviendra d'ici peu le deuxième actionnaire du groupe, juste derrière Daniel Křetínský, qui possède aujourd'hui 28% du capital. L'industriel tchèque pourrait donc se donner un peu d'air, d'où cette OPA, cette proposition faite au conseil d'administration de racheter des titres du groupe au-dessus du dernier cours de bourse, 36 au lieu de 30 euros. Objectif détenir à l'avenir plus de 50% des parts. Daniel Křetínský, vous le disiez, deviendrait majoritaire à l'abri d'une offensive chinoise. Donc, l'idée a été approuvée par les administrateurs avec un sacrifié tout de même, entre guillemets, dans l'affaire, la chaîne de magasins Nature et Découverte, ses 900 salariés qui pèsent sur les résultats du groupe Fnac Darty envisage désormais de s'en séparer.
Merci Maxime Debs pour ces précisions. L'équipe de France de ski alpin peut-elle participer aux prochains Jeux Olympiques à Milan Cortina dans moins de 2 semaines? Sans le skieur le plus titré de l'histoire de ce sport en France, eh bien la réponse est oui, puisque Alexis Pinturo n'a pas été retenu par ses sélectionneurs dans la liste qui a été annoncée ce matin. 15 sportifs sélectionnés, 7 hommes et 8 femmes, c'est moins qu'il y a 4 ans à Pékin, et il y a donc un grand absent, Fabrice Abgral.
Alexis Pinturo a remporté 3 médailles aux Jeux depuis 2014, mais il n'a jamais été champion olympique et à bientôt 35 ans, il ne le sera probablement jamais. Le double champion du monde du combiné est victime non seulement de ses modestes résultats, mais aussi de la décision de la Fédération internationale de n'accorder que 7 places au skieur français. Quota calculé en fonction des performances réalisées depuis 1 an et demi. L'équipe de France sera emmenée par 3 spécialistes des épreuves de vitesse, Nils Allègre, Nils Alphan et Maxence Musaton, 3e de la descente de Kitzbühel samedi dernier. Et 3 slalomeurs. Clément Noël, champion olympique en titre, Paco Rassa, vainqueur de 2 Coupes du Monde cette saison, et Steven Amier. Choix judicieux qui permettra au passage de former 3 duos pour le combiné par équipe, nouvelle épreuve olympique. Il n'y aura qu'un seul géantiste, Léo Anguenaud, 3e cette saison à Adelboden. Ce faible quota fait débat, d'autant plus que les skieuses françaises bénéficient, elles, de 8 places, alors que, sauf miracle, aucune d'entre elles n'a de chance de décrocher une médaille, à moins que Romane Miradoli ne réalise un exploit en Super G, comme elle l'a fait en terminant cette saison 2e à Saint-Moritz.
Début de ces JO d'hiver le 6 février et on va en reparler dans quelques minutes. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin, toujours de la grisaille. Puis à partir de 13h30, l'avocat suisse Romain Jordan et le journaliste du Temps Xavier Lambiel sont nos invités pour parler du drame de Crans-Montana et de cette enquête si critiquée. 01 45 24 7000 pour vos questions, pour être avec nous. 13h45, bien justement, notre feuilleton avec un champion de ski paralympique à quelques semaines des Jeux en Italie, c'est le Haut-Savoyard Julien Segers. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona, Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour,
bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous faites le récit d'un sauvetage.
Orchestré par Paul Salmon, 82 ans, fondateur de Catimini à Cholet, il se bat pour relancer la marque de vêtements pour enfants.
Et avec vous Frédéric, un guitariste.
Guitariste électrique, il s'agit de Matisse Pascot qui vient de faire paraître un 4e album absolument magnifique et avec lui nous écouterons des Trippers, des Beatles, son groupe préféré.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Ce vendredi, France Inter Tour s'arrête à la Chapelle Corneille à Rouen.
Une émission pas comme les autres.
À 16h, Zoom Zoom Zen.
Placé sous le signe de l'émotion pour notre camarade Quentin.
Bah oui, parce qu'il revient sur ses terres, la Normandie.
Oh là là, dans la salle, il y aura toute sa famille, tous ses cousins.
Oui Cyril, et qui sait, peut-être même son amour de jeunesse.
Oh oui, Marguerite.
Sauf si bien sûr, la dermatose nodulaire a eu raison d'elle. On croise les doigts.
France Inter Tour à Rouen, c'est ce vendredi à partir de 16h.
Réservation sur Maison de la Radio et de la Musique.fr.
Marguerite, c'est toi.
Je suis de bonne, 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 bonne humeur.
Écoutez votre musique et vos appels directement dans vos aides auditives incognito d'Afflelou grâce à leur connexion Bluetooth et à la beauté du son généré par intelligence artificielle.
Bien entendre, c'est rester connecté à ce que vous aimez. Alain Afflelou, opticien et acousticien. Selon les modèles incognito, renseignez-vous en magasin. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
France Inter, partenaire de Chien. Un spectacle plastique et musical conçu par Lorraine de Sagazan avec l'ensemble Miroir étendu. Du 29 janvier au 14 février au Théâtre des Bouffes du Nord. En s'appuyant sur une affaire judiciaire en cours mettant en cause l'industrie pornographique majoritaire, ce projet tente de révéler que la banalisation de cette violence n'est pas un accident de l'histoire, mais la continuation d'une guerre de genre. Chien interroge l'histoire de notre regard. Chien, au Théâtre des Bouffes du Nord, un spectacle France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Après-midi donc plutôt gris.
Oui, ce sont effectivement les nuages qui vont dominer largement cet après-midi avec une densité nuageuse plus forte au nord de la Loire et puis un renfort de pluie en Bretagne où une nouvelle dégradation pluvieuse aborde les côtes à la mi-journée accompagnée d'un vent qui souffle à 70 km par heure. Les pluies faibles, modérées sont tout de même à surveiller car elles tombent sur des sols déjà gorgés d'eau. Météo France a placé 3 départements en vigilance orange pluie, inondation, le Morbihan, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine avec un risque de crue aussi pour Morbihan et Finistère. La Corse reste exposée à des pluies ou averses, essentiellement sur ses façades sud et ouest, sous un ciel alternant entre passages nuageux et éclaircies. Mais quand même, le soleil se montre généreux sur le quart sud-est à la faveur du vent qui dégage les nuages par rafale de 50 km par heure.
Statu quo pour les températures.
On a encore un grand quart nord-est tout de même soumis à plus de fraîcheur. 4 à 8 degrés partout ailleurs, effectivement, les valeurs s'échelonnent entre 8 et 12 degrés. Et puis toujours cette petite pointe de douceur à 15 degrés sur le Pays Basque, la Côte d'Azur et la Corse. 7 degrés à Paris, Strasbourg, Dijon, 9 à Lyon, Cherbourg, Tours, Clermont-Ferrand, 12 degrés à Marseille, Bordeaux, Toulouse, et puis 13 à Biarritz, comme à Ajaccio.
Biarritz, oui, c'est
Biarritz.
Ça. Merci Stéphanie Fromentin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
40 morts, dont 9 Français, 116 blessés, des victimes de plusieurs nationalités. Deux gérants français, le couple Jacques et Jessica Moretti, visés par une instruction pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Jacques Moretti a été remis en liberté vendredi. Et puis une commune, Crans-Montana, qui reconnaît l'absence de contrôle depuis 2019 et dont on attend l'audition par la justice de ses responsables. Voilà quelques éléments de l'enquête que mène la justice du canton du Valais en Suisse. Après l'incendie du bar Le Constellation la nuit du Nouvel An, une enquête très médiatique mais aussi très critiquée. On en parle avec nos invités. Romain Jordan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, vous défendez une dizaine de familles de victimes suisses de cet incendie. Merci d'être en ligne avec nous. J'accueille également en direct de Suisse Xavier Lambiel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien de Genève, le quotidien Le Temps, et vous écrivez sur ce drame depuis 26 jours maintenant. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous qui nous écoutez, vous passez aussi via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Romain Jordan, vous avez parlé vendredi de la vive émotion du choc après la décision de la procureure de libérer Jacques Moretti, qui était en détention provisoire. C'est l'un des deux gérants du bar Le Constellation. Ça a été une décision très douloureuse pour les familles de victimes que vous représentez.
Alors écoutez, c'est une décision du tribunal des mesures de contrainte, pour rester précis,
pas de la procureure à proprement parler.
Mais bon, c'est les autorités judiciaires de manière générale. Alors, comme j'ai coutume de dire, en bon respect de la déontologie, je n'ai pas à commenter les enjeux de détention préventive quand je défends une partie plaignante. Cela étant, je peux effectivement vous dire que les familles que je défends n'ont pas compris cette décision. et m'ont fait part de leurs préoccupations en lien notamment avec le risque de collusion. Ils ne comprennent pas qu'il n'y ait pas de réponse à proprement parler sur cet enjeu-là, alors qu'on est dans les premiers jours, encore actuellement, hein, d'une instruction pénale qui va forcément durer, que de nombreuses personnes n'ont pas été entendues, notamment les anciens employés ou les employés encore qui étaient présents ce jour-là. On n'a pas de réponse sur ce risque, le risque de voir des témoignages influencés, de voir des témoignages manipulés ou tout simplement de voir des disparitions de preuves suite à des ententes entre personnes devant être entendues.
Jacques et Jessica Moretti ont pourtant interdiction de se rencontrer, hein, me semble-t-il.
Alors, écoutez, comme vous savez, par ailleurs, il y a une interdiction du ministère public pour tous les partis et tous les avocats de se déterminer de façon précise sur certains éléments du dossier. Mais je peux vous dire qu'à ma connaissance, cette mesure n'a pas été prononcée, au contraire.
D'accord. Xavier Lambiel, je me tourne vers vous. Ils ont possibilité de se rencontrer, d'échanger directement?
Oui, alors à ma connaissance, ils ont tout à fait la possibilité de se rencontrer et d'échanger directement, d'autant plus qu'il s'agit d'un couple, qu'ils ont des enfants, qu'ils habitent ensemble. Je ne crois absolument pas que cette mesure ait été prononcée, il y en a d'autres. Il y a des mesures de substitution, ils doivent se présenter au poste de police.
Ils ne peuvent pas quitter le pays.
Ils n'ont plus leur document d'identité et ils ont l'interdiction de quitter le territoire. Par contre, ils peuvent tout à fait parler. Et comme le disait Romain Jourdan, en Suisse, la détention provisoire, elle dépend soit du risque de réitération, ici ce n'est pas le cas, soit du risque de collusion ou d'altération des preuves, c'est ici ce qui fait débat. Et ces gens-là sont ensemble en ce moment.
Merci de cette précision. Question de Christophe, question écrite de Christophe, je le lis. La justice doit être la même pour tout le monde, sauf que les gens riches, nous dit-il, peuvent payer pour ne pas rester en prison. Je trouve ça pas juste que ce soit l'argent qui fasse que vous soyez libre ou non. Xavier Lambiel, ce sont les autorités qui fixent le montant de la caution. Là, il me semble que c'était autour de 200 000 euros.
Oui, effectivement, c'est la procureure générale qui a fait cette demande au tribunal des mesures de contrainte qui a suivi le ministère public. Donc la caution est fixée à 200 000 francs pour chacun des deux époux Moretti. À ma connaissance, la caution de M. Jacques Moretti a été payée. Pour celle de l'épouse, je ne sais pas encore, mais elle n'était pas en détention. Et puis, de façon générale, les procureurs ont beaucoup insisté pour nous dire qu'en Suisse, la détention provisoire, c'est l'exception, ça n'est pas la règle. Il est très fréquent que les gens puissent sortir de prison sous caution.
200 000 francs suisses, bien évidemment, puisque c'est la justice suisse. Romain Jourdan, est-ce que l'identité de la personne qui a versé cette caution est un sujet ? Pour vous, on ne la connaît pas, cette identité ?
Malheureusement, vu la mesure de secret qui frappe cette procédure, je ne peux pas vous répondre de manière totalement complète à cet égard, mais je crois savoir, pour l'avoir lu dans la presse, effectivement, que c'est une requête particulière des prévenus, que la personne qui s'est proposée de financer cette caution a souhaité avoir une garantie d'anonymat.
Est-ce que ça interroge vos clients ? Je vais la reformuler différemment.
Écoutez, assurément, il y a beaucoup d'incompréhension. Et encore une fois, mes clients, vraiment tout ce qu'ils me disent, c'est « mais pourquoi il n'y a pas de réponse sur le risque que l'enquête soit retardée ou soit encore victime de mauvais pas s'il n'y a pas de mesure pour s'assurer qu'il n'y a pas de collusion, qu'il n'y a pas d'action pour faire disparaître des preuves ou pour influencer des témoignages ?» C'est véritablement ça leur demande, et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de réponse spécifiquement sur ce point.
C'est une enquête hors norme à laquelle on assiste depuis le 1er janvier, Xavier Lambiel, et on en a encore eu l'illustration ce week-end après la décision de la justice de remettre en liberté Jacques Moretti, la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Je rappelle que plusieurs victimes sont de nationalité italienne. Elle a critiqué cette décision, elle a rappelé son ambassadeur de Suisse vers l'Italie. Il y a beaucoup de pression sur la justice suisse.
Oui, alors la pression est énorme, elle vient surtout d'Italie, comme vous l'avez dit. Il est extrêmement rare dans l'histoire de la Suisse qu'un pays soit à ce point-là fâché qu'il rappelle un ambassadeur. De mémoire, ça n'est plus arrivé depuis des dizaines d'années. Et puis, comme l'ont répété assez timidement les autorités suisses ces dernières heures, la justice est indépendante du pouvoir politique et Giorgia Meloni, toute première ministre d'Italie qu'elle soit, n'a pas d'ordre à donner à une procureure. Après, la pression vient aussi des avocats des familles que représente notamment M. Jourdan. Il y en a plus de 50 pour plus de 130 parties plaignantes. C'est un chiffre qui augmente encore. Et ça va être un immense travail pour la justice de gérer autant d'avocats. D'ailleurs, ça a déjà posait de mini-problèmes, par exemple logistique. Tout le monde ne pouvait pas être dans la même salle au moment des auditions des époux Moretti pour poser des questions. C'est clairement quelque chose de jamais vu pour une justice dont il faut bien voir qu'elle est régionale. Il s'agit de la justice du canton du Valais. Et pour une justice qui, avant cet événement, était déjà en difficulté, voire en crise, ces dysfonctionnements, ces dernières années ont été documentés.
Justement, pourquoi est-ce que c'est la justice du canton du Valais? Vous nous parlez de la taille de ce dossier, des difficultés logistiques ou d'organisation que peut avoir cette justice. Pourquoi l'enquête ne se fait pas au niveau confédéral, au niveau de la Suisse? Xavier Lambiel.
C'est comme ça que marche le système. Il y aurait pu avoir, et c'était une requête de certaines parties, un procureur général extraordinaire nommé pour cette enquête. Peut-être que ça aurait été une bonne idée, peut-être pas. Mais dans notre système, la seule qui pouvait décider de ça, c'est la procureure générale du canton du Valais. Et elle a choisi de se passer d'un procureur extraordinaire. Donc elle prend un risque, elle assume qu'elle se chargera elle-même de l'enquête avec toute la pression que ça suppose. Et puis elle réussira ou elle échouera, mais elle sera jugée là-dessus.
Romain Jordan, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le choix de la procureure de garder le dossier entre les mains?
Alors bon, la Suisse, contrairement à la France, est un État fédéral avec des clauses de répartition de compétences assez délimitées et le ministère public de la Confédération a des capacités de se saisir d'une affaire que pour certains types d'infractions ou en présence d'une certaine situation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Donc forcément, la Confédération est cantonnée à un rôle dans une certaine mesure d'observateur, mais comme je l'ai dit vendredi au président de la Confédération, ça n'empêche pas la Confédération de peser sur la bonne conduite de la procédure, de confirmer qu'elle est préoccupée par cette question et de jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe.
Vous avez parlé du travail de la collecte de preuves, Romain Jordan, il y a quelques minutes. Vous avez lancé carrément, il y a 10 jours, une plateforme en ligne pour recueillir des témoignages, vidéos, photos, lettres, qui pourraient faire progresser l'enquête et de manière confidentielle. Est-ce que vous avez déjà reçu de tels témoignages ?
Alors écoutez, comme c'est indiqué sur cette plateforme, qui effectivement a pour but de faciliter notre travail, les informations qui sont transmises sont soumises au secret professionnel, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations que cela, que si ce n'est de vous confirmer effectivement que cette plateforme a pour but de faciliter notre travail. Je ne vous cache pas que dans les premières heures et premiers jours ayant suivi la catastrophe, on a eu énormément d'appels de gens qui souhaitaient partager des informations. On a reçu dans nos boîtes email énormément de documents, d'informations, etc. C'était aussi pour cadrer toutes ces démarches. Et puis aussi, pardon à l'égard de la radio que vous représentez, mais aussi constituer une alternative aux médias pour qu'aussi les gens qui souhaitent partager des informations puissent le faire dans un cadre bien délimité.
Mais normalement, ces témoins, ils vont voir la police. Vous craignez qu'ils aient peur d'aller voir les autorités ?
Écoutez, la configuration est assez spéciale. On a des jeunes gens, parfois des jeunes adultes ou des vieux enfants, on va dire, qui étaient présents. C'est pas toujours facile, peut-être, d'envoyer des vidéos, d'envoyer des photos où on peut nous apercevoir en train de faire la fête, par exemple. Et puis, on nous parle aussi parfois de la peur de représailles, de la peur de rester discret, de ne pas se retrouver pris en étau dans ce dossier. C'est quelque chose, nier cette réalité ne serait pas correct.
Vous craignez pas d'être intoxiqué par de faux témoignages, par de fausses vidéos ?
Écoutez, on est assurément très vigilant à cet égard et puis si nous décidons de partager des éléments, nous le ferons évidemment en pleine collaboration avec l'autorité pénale qui demeurera apte à faire tout son travail d'analyse à cet égard.
Un autre avocat qui est présent dans ce dossier, vous le connaissez, c'est Maître Fanti, a dit ces derniers jours, donc il représente des familles de victimes, qu'il avait réuni des témoignages selon lesquels un feu s'était déjà déclaré aux Constellations en 2024 et déjà à cause de bougies trop proches du plafond. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez pu avoir connaissance de témoignages allant dans ce sens, Romain Jordan ?
Écoutez, moi, j'ai un élément qui me vient tout de suite à l'esprit à ce propos, c'est la vidéo qui a été révélée par vos collègues de la RTS du réveillon 2019-2020 où vous entendez un serveur qui dit « faites gaffe à la mousse » à plusieurs reprises. Et ça provoque chez moi cette interrogation. Pourquoi, si en 2019 déjà, on se préoccupait des dangers que pouvait représenter cette mousse en présence de bougies, pourquoi n'a-t-on rien fait depuis ?
Question d'Armel, là aussi une question écrite pour vous, Maître Jordan. Les images, nous dit-elle, parlent d'elles-mêmes. J'ai vu cet employé sur les épaules de quelqu'un qui met les bougies en l'air. N'importe qui sait qu'on ne fait pas ça. Autrement dit, la responsabilité individuelle, c'est ce que dit Armel, des salariés plutôt que celle des gérants. C'est d'ailleurs la ligne de défense de Jacques et de Jessica Moretti. Romain Jordan, un commentaire sur cette remarque de cette auditrice.
Écoutez, je n'entends pas commenter plus avant la stratégie de défense des époux Moretti. Maintenant, quand on est employé et puis qu'on reçoit des ordres, il apparaît difficile de se voir reprocher de les avoir suivis, a fortiori si son employeur connaissait les dangers d'une situation. Donc, Ça me semble tout à fait irrecevable de se retourner vers les employés.
Xavier Lambiel, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Temps. Il y a eu cet aveu il y a quelques jours de la part des autorités de la commune de Cran-Montana qui ont reconnu qu'il n'y avait pas eu de contrôle dans le bar depuis 2019. Est-ce que ces responsables vont être entendus dans les prochains jours ?
Oui, ils ne l'ont pas encore été, mais ils seront sans aucun doute entendus. Ça concerne pas mal de monde, ça concerne le président de la commune, ça concerne les chargés de sécurité successifs de la commune, et puis certains élus en charge de la sécurité, j'ai aucun doute qu'ils seront entendus, et je m'attends même à ce que dans les prochaines semaines, ils deviennent des prévenus et plus seulement des témoins. Je pense qu'un jour, ils seront aussi sur le banc des accusés, ne serait-ce que parce qu'ils ont reconnu n'avoir pas opéré de contrôle pendant plus de 6 ans, alors que la loi régionale oblige ces contrôles chaque année.
Question de Philippe pour vous, Xavier Lambiel. J'ai vu une fois un reportage sur France 2 dans lequel on voyait les entourages des gérants du bar qui insultaient violemment des journalistes italiens. On n'en a plus jamais entendu parler, nous dit Philippe. Dans quel contexte, dans quelle ambiance travaillez-vous, Xavier Lambiel, depuis 26 jours maintenant ?
Dans une ambiance tendue, avec une vraie chape de plomb. Il faut quand même comprendre que même 26 jours après, dans cette région où je travaille et d'où je viens, l'ambiance est extrêmement lourde et les gens sont tous traumatisés et tous choqués. On connaît tous dans la région quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Et puis pour ces fameux Corses qui ont agressé des journalistes de Blick, et qui est un média suisse, ouais, et de la télévision italienne. On les a plus trop vus, je ne sais pas s'ils sont encore là ou pas. Et puis, ces gens-là ont un petit peu nourri le mythe du milieu corse, de la mafia corse, auquel, pour l'instant, personnellement, je n'ai pas vu de preuve pour ça, mais ils ont fait partie de tout un mythe qui s'est construit autour des gérants.
Merci Xavier Lambiel d'avoir été en direct avec nous. Je renvoie à vos articles, journaliste au quotidien Le Temps. Merci également à Romain Jordan d'avoir été avec nous en direct de Suisse dans ce 13-14, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton et il nous emmène sur les pistes jusqu'à vendredi, 2 semaines avant les JO d'hiver à Milan Cortina et 6 semaines avant les Jeux paralympiques. Alors comment se préparent les champions ? Nous passons la semaine avec Jules Segers, 23 ans, originaire d'Égée en Haute-Savoie. C'est l'étoile montante du paraski alpin tricolore. Il a remporté sa première épreuve de Coupe du Monde le mois dernier. C'était en combiné, on le retrouve.
Gas au départ. À l'arrivée, c'était la bosse à Ross. Hein. À l'arrivée, il y a la cellule, elle est la porte avant la bosse. Donc, vous relevez à la cellule, comme ça vous passez la bosse tranquille et vous voyez ce qui se passe derrière. Vous pouvez ralentir déjà un peu avant la bosse.
Bonjour, je m'appelle Jules Segers, j'ai 23 ans et je suis membre des équipes de France de paraski alpin. Moi, je suis né avec une hémiplégie du côté droit suite à un AVC in utero. Mon père est moniteur de ski, donc il m'a mis sur les skis à l'âge de 2-3 ans, je m'en souviens pas. Je sais juste que j'ai adoré ça, en fait, la sensation de glisse. Cette sensation de glisse qui est à chaque fois différente, qui me fait vibrer. Quand j'ai commencé le ski, il y avait plein de choses que j'arrivais pas à faire. Par exemple, je tournais que d'un côté puisque j'avais tout le côté droit paralysé. Mon père avait raboté la poignée, m'avait scotché la main pour que je puisse tenir le bâton.
Essaye les deux portes d'avant de travailler comme des portes de géant, notamment le pied droit d'avant.
Mes parents, ma famille me soutiennent vraiment dans ce parcours. Et je dirais plus que c'est un soutien qu'une pression. Finalement, ils savent que je peux prendre mes décisions sur tout au niveau sportif et que j'ai des objectifs à tenir et ils sont là pour m'accompagner, mais justement pas pour me rajouter une pression en plus. Le sport de haut niveau, c'est déjà beaucoup de pression, c'est déjà beaucoup de sacrifices. Donc ils sont là plus pour m'accompagner. Au niveau de ma vie familiale, je dirais qu'il y a énormément, on m'a énormément aidé. Je me souviens de mon frère quand j'étais à l'école primaire au Jet, avoir toujours un œil sur moi dès que je tombais, dès que je faisais quelque chose ou que j'arrivais pas, qui venait. Voilà. Ma maman aussi qui est sage-femme, qui m'a apporté tellement. M'a emmené sur tous les rendez-vous médicaux, sur tout ce parcours de kiné, ergothérapie et j'en passe. Mais ce parcours où, en fait, finalement, je ne serais pas là où j'en suis s'il n'y avait pas eu ça.
Continue comme ça, tu as encore amélioré de 4 dixièmes, ça veut dire que c'est sur la bonne voie.
Quand j'ai eu ma première médaille au championnat du monde à Maribor, en géant, il y a eu ce regain d'émotion. On a une médaille au championnat du monde. Ça n'arrive pas à n'importe qui, ça n'arrive pas à n'importe quand. Nous, nos championnats du monde, ils sont tous les 2 ans. C'est un peu l'antichambre des jeux. Et forcément qu'il y avait beaucoup de joie. Et il a fallu un petit peu redescendre sur terre. Si j'arrive à avoir une médaille à Milan Cortina, je ne m'arrêterai pas à une médaille. L'objectif, ça sera d'en avoir le plus possible. Mais c'est justement aussi gérer ça et gérer cette joie que l'on a quand on réussit. Pour un athlète paralympique, mais comme un athlète olympique, les Jeux, c'est vraiment le Graal, le plus haut niveau. Ça arrive rarement dans une carrière. Il y a vraiment une effervescence, un pays même, derrière les athlètes de cette équipe de France olympique et paralympique. C'est l'histoire d'un jour, c'est l'histoire d'une course, et c'est tout ou rien, finalement. Le but, c'est d'avoir une médaille. Le but, c'est de donner le meilleur de soi-même, mais surtout, c'est de pas avoir de regrets, de se dire que on a tout tenté et on verra ce qui arrive.
Une semaine dans la vie de Jules Segers. Feuilleton signé Noureddine Zidane, réalisation Vincent Godard.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France le lundi, 13h51. Cécilia Arbona nous parle d'une histoire. Et aujourd'hui, cette histoire de renaissance, Cécilia, la marque Catimini.
Marque de vêtements pour enfants fondée en 1972 près de Cholet dans le Maine-et-Loire par Paul Salmon. À 82 ans, l'ancien entrepreneur a décidé de voler au secours de la société menacée de disparition. Au fil des années, raconte-t-il, Catimini est toujours resté mon bébé. Son entreprise a changé plusieurs fois de patron. C'était douloureux pour moi d'assister au naufrage de plans sociaux en redressement judiciaire. Je me suis dit, allez, sors de ta retraite et trouve un repreneur solide.
Et c'est donc aux Herbiers, en Vendée, qu'il a démarché un poids lourd du textile.
Le groupe CWF pour Children Worldwide Fashion, spécialiste du prêt-à-porter haut de gamme pour enfants et juniors, concepteur et distributeur de collections pour 14 marques de 0 à 16 ans, Givenchy, Chloé, Boss, Kenzo, Zadig et Voltaire, présents dans 83 pays, ce spécialiste du luxe pour bambins et adolescents apparaissait comme le partenaire idéal. Paul Salmon a donc joué l'intermédiaire entre ID Kids, qui détenait Catimini, et CWF. L'octogénaire raconte « Je connaissais les deux patrons, je leur ai demandé de se rencontrer et de trouver un terrain d'entente. On a fait une étude de notoriété chez les consommateurs et le nom de Catimini a fait tilt. Vous vous rappelez la pub du gosse coquin avec son béret noir sur fond rouge carmin? Eh bien, elle est remontée à la surface dans la mémoire des familles qui ont habillé leurs enfants chez nous dans les années 80 et 90.
Et c'est vrai que Paul Salmon a inventé un style facilement identifiable.
Catimini a imposé du vermillon, du tangerine, du fuchsia dans les tiroirs des commodes des tout-petits. Quand j'étais étudiant en école de commerce, se souvient le créateur, mes parents avaient une société de cadeaux de naissance. Il y avait du blanc, du bleu ciel et du rose layette. Et ça s'arrêtait là. Mmh. Avec ma femme Monique, on a colorié tout ça grâce à nos voyages en Asie et en Afrique. Expatriés pendant 4 ans au Ghana, nous sommes tombés sous le charme des tissus bigarrés des marchés. On a ramené un nouveau style dans nos bagages et j'ai gardé précieusement des dessins de cette époque. D'ailleurs, quand je suis allée aux Herbiers, au siège de CWF, j'ai apporté avec moi 2 valises de documents pour montrer à la nouvelle génération ce que nous faisions. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Mon épouse est très fatiguée. Moi, j'ai la chance d'avoir la santé de faire des sorties à vélo tous les jours. Au mois de mars, je suis invitée à Paris à la fête de lancement de la nouvelle collection prévue pour 2027. Je me réjouis de savoir que l'aventure Catimini n'est pas finie.
Portrait de Paul Salmon. Danser la France grâce à Cécilia Arbona. C'est une chanson. C'est le musicien Matisse Pascot que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro. Frédéric Pommier.
Matisse Pascot, compositeur et guitariste électrique, qui vient de faire paraître Loup, L-O-U-P-S, un superbe album aux accents parfois Pink Floydiens, qu'il donnera à entendre mercredi au pop-up du label à Paris. Ça vous a plu, Pink Floydien?
Oui, d'accord.
Et c'est
Mais c'est pas Pink Floyd qu'on va écouter.
Absolument pas.
Non, ben non.
Ben non, c'est Day Tripper des Beatles qu'il a souhaité que l'on écoute, un morceau qu'il a découvert à l'âge de 6 ans.
Mon père est musicien amateur, mélomane, etc. Il y a une discographie assez large à la maison qui va de la musique classique, je sais pas, Jean-Sébastien Bach au jazz, Miles Davis, et en passant par les Beatles. Et un jour, je pioche dans la discographie comme un enfant qui cherche dans des tiroirs et je trouve les Past Masters Volume 2, qui est une compilation des singles des Beatles. Donc c'est des morceaux qui étaient sortis en 45 tours. Le premier morceau, c'est Day Tripper. Et en fait, pour l'anecdote, c'est le premier morceau de musique dont je me souviens. Je n'ai pas souvenir avant cette époque-là d'avoir écouté d'autres musiques. Et puis, avec le temps, je me rends compte quand je commence à faire de la musique et quand je commence à composer des morceaux, que ce Day Tripper, l'agencement, l'architecture de ce Day Tripper, la guitare qui fait le riff, la guitare qui accompagne, la basse électrique, la batterie, le tambourin, les chœurs, etc. Cet agencement, cette architecture, et souvent une architecture que j'utilise quand je dois arranger ou composer des morceaux. En tout cas, c'est presque 30 ans plus tard, toujours aussi clair dans ma tête, quoi.
Donc potentiellement, c'est ce morceau qui a inspiré votre manière de composer ?
Potentiellement, complètement, c'est ça. Notamment cette idée que, au-delà de la mélodie du chanteur, le riff est la pierre angulaire du morceau.
Frédéric, pour ce morceau des Beatles.
Un groupe qui reste essentiel pour Matisse Pascot. Il lui arrive rarement de passer une journée sans eux.
J'écoute les Beatles à peu près tous les jours et puis Day Tripper, je me rends compte que c'est un fil rouge parce que il y a plus d'une dizaine d'années, quand je donnais des cours de guitare, souvent c'était un des premiers morceaux que je faisais apprendre à mes élèves. C'est un morceau en mi. Mi, c'est la tonalité par excellence à la guitare et ça marchait bien parce que c'est en l'occurrence un riff qu'on mémorise très très bien. Ça m'accompagne aussi souvent dans le train, dans les transports, parce que en tant que musicien, on voyage énormément. Et Day Tripper, il y a le mot trip, il y a le mot voyage, et les moments parfois de nostalgie, de solitude dans les transports où on fait des longs voyages de plusieurs heures et on est loin de sa famille, loin de ses amis. Ce Day Tripper étant une Madeleine de Proust, on peut le dire, me permet de me remettre dans un confort. J'ai l'impression d'être à la maison alors que je suis assis dans un train.
En l'occurrence, le voyage dont il est question dans cette chanson, c'est, me semble-t-il, le voyage auquel amène le LSD.
Oui, c'est un trip LSD, c'est aussi une espèce d'histoire amoureuse éphémère, de ce qu'on comprend aussi. Mais quand j'ai découvert ces différents sens, j'ai préféré rester sur mes émotions, mes sensations de l'enfant que j'étais à l'époque. Et quand j'entends les premiers sons de ce riff-là, les premières notes, à chaque fois, c'est comme si je faisais un voyage dans le temps. je reviens en arrière et je me revois devant cette jeune fille, à l'endroit où elle était positionnée dans le salon chez mes parents. Pourtant, ils ont fait des travaux depuis, la pièce n'a plus rien à voir. Mais quand j'écoute ce morceau-là, j'ai une vision très claire de comment c'était agencé.
C'est un groupe qui a énormément compté pour vous, les Beatles ?
Énormément, c'est mon groupe préféré. C'est aussi aujourd'hui dans ma vie, dans ma carrière de musicien, un moment très spécial parce qu'on est allé enregistrer mon dernier album au studio Abbey Road. Et ça a été une étape qui restera gravée à jamais parce qu'on a pu respirer l'air qu'ils ont respiré, être éclairé à la lumière par laquelle ils ont été éclairés, sentir voilà, toutes les émotions, les odeurs de ce studio qui d'ailleurs, pour l'anecdote, le studio 2 à Abbey Road n'a pas changé. Donc c'était mon pèlerinage.
L'air a peut-être changé quand même ?
Oui. Mais c'est un endroit clos, donc je me disais que non.
Day Tripper, les Beatles, c'était Frédéric, le choix du guitariste Mathis Pascoe.
Mathis Pascoe qui sera en concert mercredi au pop-up du label à Paris, puis vendredi au Café Charbon à Nevers.
Merci Frédéric et à demain.